Alors, je m'appelle Marie-Marguerite, je suis native de Gommelange. Ma maman habite à Gommelange, hein, voilà. Et je fais partie, depuis plus de 25 ans, je fais partie de la communauté des Béatitudes et je suis laïque. Hein, donc, je fais partie de la branche laïque de la communauté des Béatitudes. Pendant 17 ans, j'ai vécu à l'intérieur de la communauté, donc en interne. Et puis, il y a une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, mon père est tombé malade et rentré dans son monde un petit peu. Et c'était le moment où, au niveau de la communauté, il y avait une restructuration qui était faite. Et on parlait donc de l'autonomie financière des laïcs. Donc moi, je suis laïque. Mes parents proposaient un travail et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc j'ai demandé à ma communauté, qui est en Belgique. Alors, il y en a partout, hein, en France, mais entre autres, la maison à laquelle je me rattache est en Belgique. Et j'ai demandé si je pouvais venir. Donc, on m'a dit oui. Donc, je fais le trajet entre la Belgique et puis la France. Alors, je suis... En ce moment, je suis là toutes les semaines, du lundi au jeudi. Voilà. Et normalement, pendant deux week-ends par mois, je reste en Moselle. Donc, c'est aussi pour ça que voilà que je suis là. Alors, de temps en temps, j'ai animé des conférences une journée à Saint-Avold, voilà. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je me trouve dans mon secteur paroissial et là, j'avoue que
c'est émouvant.
Oui, c'est un peu émouvant. C'est un peu émouvant. Voilà, on va d'abord commencer par jeter un regard sur la création. Et puis ensuite, je voudrais qu'on regarde la chute, hein, le péché d'Adam, hein, qu'on parle du péché originel. On parlera rapidement de Caïn. Hein. Ensuite, je voudrais parler un peu de David, hein, du grand roi David. Et puis, comment je veux dire, et tout au long de ces passages que je viens de citer, je voudrais qu'on regarde le cœur de Dieu, comment Dieu regarde l'homme. Et puis, terminer par cette miséricorde du cœur de Dieu, dont Sœur Faustine nous a parlé de manière, quand même de manière assez forte. Voilà. Alors moi, j'aime bien regarder ces textes de la Genèse. Je ne sais pas vous si vous aimez, mais quand vous ouvrez la Bible, hein, les premiers textes, c'est les textes de la Genèse qui nous parlent de la création. C'est sûr que ces textes ont un statut particulier, mais ça ne fait rien. Ils disent des choses très importantes. Voilà. Donc, on va s'y arrêter. Alors, quand on prend le premier récit de la création, le texte commence par dire Dieu, au commencement, Dieu créa. Alors, le verbe créer, c'est un verbe qui n'est utilisé que pour Dieu dans la Bible. Hein. Ce verbe en hébreu, bara, il n'y a que Dieu qui crée. Parce que Dieu fait à partir de rien. Mais quand l'homme fait, il utilise, quand l'homme crée quelque chose, il utilise ce qui existe. Voilà. Alors ce Dieu, comme on a chanté, il est grand, il est beau, hein, c'est le Très-Haut. On le voit, comment je veux dire, il y a seulement Dieu qui crée. Hein. Alors déjà, quand on parle que Dieu crée, on peut déjà faire une distinction. Il y a le Créateur et ce qui est créé, les créatures. Et là, il y a une différence radicale. Voilà, Dieu crée. Alors, il crée la lumière, le ciel, la terre, le soleil, les astres, enfin le soleil, la lune, les étoiles, la mer, la terre, les animaux, les plantes, etc. Et alors, c'est comme une pyramide. Enfin, moi, je vois ça comme une pyramide. Et au sommet, c'est le chef-d'œuvre. Au sommet, c'est l'homme. Hein, au sommet, c'est l'homme. Et l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu a créé, alors l'homme et la femme, hein, à l'image de Dieu, il les créa. Homme et femme, il les créa. Donc c'est l'homme et la femme qui sont à l'image de Dieu. Et là, il y a un émerveillement de Dieu. Regardez le cœur de Dieu, il s'émerveille. Au fur et à mesure de sa création, il était dit « cela était bon, cela était bon, cela était bon ». Et quand on arrive à l'homme, cela est très bon. Autrement dit, et Dieu s'émerveille, il se repose après tout cet ouvrage de création, il s'émerveille. Voilà, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de beau. C'est, Dieu, il met son cœur dans ce qu'il fait. Vous avez le psaume 8 hein, qui parle de cet émerveillement. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom partout l'univers. » Vous connaissez ce refrain hein, peut-être on peut le chanter. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom partout l'univers. » Alors, je prends là le verset 4. Hein, « À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. » Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Vous vous rendez compte, Dieu qui prend souci. Et alors le verset suivant nous dit, tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. C'est nous ça. Hein, il est question de nous. Hein. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses à ses pieds. C'est vraiment quelque chose de très très beau là. Donc au sommet, voilà, il y a l'homme. Alors, donc la création manifeste la bonté, hein, la bonté du cœur de Dieu. Quand on prend le deuxième, parce qu'il y a un deuxième récit de la, hein, le deuxième chapitre de la Genèse, il y a un deuxième récit de la création. Cette fois-ci, l'homme est placé dans un jardin. On nous dit que Dieu modèle, que Dieu façonne, un peu comme un potier. Hein, moi, je vois hein, ce Dieu qui met la marque, qui met sa marque dans. Hein, il nous façonne à partir de la poussière du sol, à partir de la glaise du sol. Hein, et puis, il va insuffler une haleine de vie pour que l'homme soit vivant, hein, soit un être vivant. Et là, eh bien, cet être vivant, il est placé au milieu du jardin hein, pour le cultiver. Il est placé là pour rendre cette vie belle, pour rendre la terre hein, belle, voilà. Pour que tout cela soit beau, quoi. Donc la Genèse nous raconte que eh ben, l'homme est seul, alors Dieu va façonner des animaux. Donc on voit là le potier là, qui façonne. Hein, mais il n'y a pas d'aide semblable et Dieu va façonner la femme. Alors, je vais passer assez rapidement quand même, mais il y a ce cri d'émerveillement d'Adam, hein, ce cri d'émerveillement d'Adam qui s'émerveille en voyant Ève. Bah, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, quoi. Voilà, il y a un cri de joie. Et là, il y a une, j'ai envie de dire, les textes nous disent qu'il y a une belle relation, hein, il y a une belle harmonie, une harmonie entre Dieu et l'homme, hein, parce que il y a une dépendance. L'homme, il a tout reçu de Dieu et il rend tout à Dieu. Voilà. Mais il est dit au chapitre 3, Dieu se promène à la brise du jour. Dieu se promène et il vient à la rencontre de l'homme. Ça manifeste cette belle intimité, cette belle familiarité de l'homme avec Dieu. Peut-être on pourrait prendre ensemble que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Alors Dieu a créé par sagesse et par amour, hein, librement et à partir de rien. C'est le catéchisme qui nous dit ça, au catéchisme de l'Église catholique. Voilà, si vous avez des questions par rapport à la foi, eh ben c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Hein. Alors le catéchisme de l'Église catholique dit, ben, Dieu crée à partir de rien. Il crée un monde ordonné et bon, même très bon. Hein, même très bon. Et alors le catéchisme dit aussi, le premier homme... n'a pas seulement été créé bon, mais il a été constitué dans l'amitié, hein, ce que je viens de vous dire, avec son créateur, en harmonie avec lui-même, avec la création, et en familiarité avec Dieu. Voilà. On pourrait rester longtemps sur ces textes. Hein. Vous savez, là, j'ai été très rapide. Hein. On pourrait faire une conférence rien que sur ces textes, parce que c'est vraiment très beau. Hein. Mais on va continuer. Mais l'homme, voilà, ça c'est aussi le catéchisme de l'Église catholique qui le dit, l'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. Vous avez ça au numéro 396. Hein, Dieu est le Créateur, il donne à l'homme un commandement, hein, et il va poser une limite infranchissable, hein, que l'homme, en tant que créature, doit reconnaître et respecter, hein, avec confiance. Et Dieu va dire dans ce jardin, tout est pour l'homme, tout est pour l'homme. Mais Dieu va dire, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Hein, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Donc, Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres. Ça veut dire de tous, sauf d'un. Hein, sauf d'un. Le serpent, lui, il va venir, il va dire, alors tu ne peux pas manger de tous les arbres. Donc, il renverse il renverse la vapeur. Mais, si vous voulez, il va venir tenter Ève, hein, et Ève va faire confiance davantage au serpent, hein, que à Dieu. Hein. Et la Bible nous dit que Ève voit l'arbre qui est bon à manger et séduisant à voir. Hein, ça a l'air bon, et puis en même temps, il y a quelque chose de séduisant. Les mots disent des choses, hein, hein, comment le péché, des fois, nous séduit et nous prend par ruse. Hein. Et de toute façon, c'est ce qui arrive ici à Ève. Elle va en manger, je passe rapidement, elle va en manger, elle va en donner à Adam. Hein. Et ce faisant, tous les deux ont laissé mourir dans leur cœur la confiance en Dieu. Voilà. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture. Hein. En abusant de leur liberté, ils désobéissent à un commandement que Dieu avait donné. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, la Bible nous raconte, c'est là qu'il est dit, eh bien, en entendant les pas de Dieu dans le jardin, hein, que vont faire Adam et Ève? Et tous les deux vont se cacher. Je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous voyez ça. Moi, je vois très bien ça dans ma vie. Des fois, quand il y a un truc où c'est pas très clair, eh ben, on n'ose pas, hein, on cache. On voudrait pas que les autres voient. Hein. Et Dieu va appeler Adam, où es-tu? Où es-tu? Et ce cri traverse les générations. Dieu continue. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu continue à nous appeler. Adam, où es-tu? Marie-Marguerite, où es-tu? Je ne connais pas vos prénoms, mais je pourrais mettre « Où es-tu ? Où es-tu ?» Dieu ne cesse d'appeler. C'est vraiment un cri. C'est le cri de Dieu. Et alors, moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'Adam ne s'est pas agenouillé en disant « mon Dieu, voilà, j'ai désobéi. » Pourquoi il n'a pas eu cette humilité de se reconnaître pécheur? Mais c'est aussi notre place. Pourquoi nous n'avons pas cette humilité? Pourquoi est-ce que ça nous demande tant de mal, tant d'efforts? Moi, j'ai l'occasion en communauté, tous les 15 jours, il y a un prêtre qui passe. Hein. J'ai l'occasion tous les 15 jours. Mais je peux vous dire que ça demande, c'est toujours humiliant. Hein. Ça demande toujours un effort. Mais je suis toujours contente après. Je suis super contente après, mais c'est vrai, pourquoi Adam n'a pas eu cette humilité de reconnaître « Mon Dieu, j'ai besoin de toi ». Ouais, tu vois, là franchement, on a désobéi. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se justifier. Hein, ils vont dire « Ah oui, Adam, il va dire « Ah ben, c'est pas moi, c'est la femme ». Et puis la femme, elle va dire « Ah ben, c'est pas moi, c'est le serpent hein ».« Ah ben, c'est pas moi, c'est mon voisin ». Ah ben c'est pas moi, c'est sa faute, c'est sa faute, t'as vu ce qu'elle m'a fait, t'as vu ce qu'il m'a fait, et voilà, et puis on rentre dans la guerre. Et le pape Jean-François nous dit que la haine qu'il y a dans nos cœurs quand il y a une division avec quelqu'un, c'est la même haine que celle qui produit les guerres, c'est la même haine que celle qu'il y a à la guerre. Il y a juste une intensité, hein, il y a une différence d'intensité, mais c'est la même haine. Alors, peut-être l'adversaire, ça me permet de vous dire, celui qui accuse, c'est l'adversaire. On l'appelle l'accusateur de nos frères. Alors, attention, quand nous nous mettons à accuser, quand nous mettons à accuser les autres, ça veut dire que nous faisons le jeu un petit peu de l'adversaire, quoi. Quelle est ma part de responsabilité? Parce que j'en ai toujours, moi aussi, une part de responsabilité. Je me mets en colère, je dis « Ah, ben, c'est sa faute !» Mais non, la colère, c'est pas la sienne, c'est la mienne. Qu'est-ce qui en moi est touché? Qu'est-ce qui en moi est atteint pour qu'il y ait cette colère? C'est ma colère, c'est pas la colère de l'autre. L'autre, il a été comme un miroir, il m'a renvoyé quelque chose qui est en moi et que j'ai besoin peut-être de travailler, quoi. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, je passe rapidement dessus, mais Adam et Ève ont commis un péché personnel. Il y a quelque chose de personnel. Ils perdent leur état d'innocence originelle et ils vont transmettre cela à leurs descendants. Ils vont transmettre une nature blessée, une nature qui est privée, alors ça c'est les termes du catéchisme, privée de la justice et de la sainteté originelle. C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est un péché qui est transmis par propagation. Et tous les hommes, tous, nous sommes tous impliqués dans ce péché. Ce n'est pas un péché que nous avons commis, mais c'est un état dans lequel nous venons au monde. Alors tout ça, vous le retrouvez dans le catéchisme au numéro 404. Et Saint Paul nous dira, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et puis Saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 8, nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste. Il pardonnera nos péchés et il nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Bon, alors, franchement, voilà, on est tous dans la même... on a été tous plongés dans la même sauce. Voilà. Alors, comme le disait tout à l'heure le père Jean-Louis, le péché originel est effacé par notre baptême, mais notre nature reste affaiblie, blessée, inclinée au mal. Et ça nous demandera toujours un effort, et cet effort, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Ça nous demandera toujours un effort pour choisir, de vivre dans la liberté. Alors. Le péché, si vous voulez, il produit, donc on l'a vu là dans le texte, il produit une rupture entre Dieu et entre l'homme et Dieu, parce que Dieu, lui, il est toujours, j'ai envie de dire, c'est l'homme qui s'est caché. Dieu, il a toujours le cœur ouvert. Il est toujours là, prêt à nous accueillir. Mais c'est l'homme qui se détourne. Donc il y a une première rupture entre Dieu et entre l'homme et Dieu. Voilà. Ensuite. Et je vous ai dit, l'homme va se cacher. Il va se cacher et il va avoir peur de Dieu. Peur de Dieu, il va douter de sa bonté, il va douter de son amour. Voilà. Ensuite, c'est la relation avec les autres. Alors, les plus proches, c'est le mari, c'est la femme, mais c'est les voisins, c'est la famille, c'est la relation avec les autres. Là aussi, elle est brisée, parce qu'on va rentrer dans des accusations. Voilà. Et puis aussi avec la création, il y a une brisure par rapport au monde qui nous entoure. Regardez comment notre monde, des fois on sait le salir, mais de manière très concrète, au travers de tout ce qu'on jette, mais bien au-delà, quoi. Je touche simplement. Alors, quel gâchis. Dieu avait fait. Dieu avait placé l'homme au sommet. De la création, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou alors au centre d'un jardin qui était beau et dans lequel il y avait tout pour que l'homme puisse devenir s'épanouir et être heureux. Et puis voilà que, il y a une rupture là. Remarquez au passage que Dieu maudit le serpent, mais il ne maudit pas l'homme. C'est très beau ça. Et alors ça vaut le coup aussi d'être noté. Dans ce texte de la chute, il y a aussi ce qu'on appelle le protévangile. Ces paroles qui disent « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance hein, et la descendance du serpent, hein, entre la descendance de la femme et la descendance du serpent, il t'écrasera la tête et toi, tu l'atteindras au talon. Et ici, tous les pères de l'Église voient déjà une lueur d'espoir, hein, une lueur de salut. Hein, cette femme, ben, en fait, on y met la figure de la Vierge Marie qui, elle, écrasera la tête du serpent. Parce qu'elle apporte... si vous voulez, parce qu'elle apporte celui qui est vainqueur de tout mal. Voilà. Hein, donc il y a une annonce de la victoire, finalement, de l'homme sur le diable. Et ça se fera ben, par la croix de Jésus, qui, face à la haine, répond par l'amour. Hein. Quand nous sommes victimes de mal, hein, rarement, en tout cas, nous ne sommes pas Dieu et nous ne réagissons pas comme Jésus. En tout cas, dans un premier mouvement, en tout cas, on va réagir par de la haine, mais par de la haine ou par de l'agressivité ou par de la colère ou voilà. Mais Jésus, lui, c'est vraiment ça. Il a cassé ce cercle infernal de haine, hein, en ne manifestant que de l'amour. Alors, je termine là cette première partie. Simplement, puisque je vous ai parlé de la création, je vous donne une image que Thérèse d'Avila a donnée et que j'aime beaucoup. Thérèse d'Avila, quand elle parlait de l'homme, de l'âme, hein, elle disait, alors ça c'est aussi merveilleux, hein, c'est comme un château de cristal, voilà. Hein, Dieu nous a créés comme un château de cristal. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous sommes tous comme un château de cristal. Et alors, le cristal, quand il y a de la lumière qui arrive, donc la lumière, entendez par là le soleil de l'amour de Dieu, hein, quand il y a de l'amour qui arrive de l'extérieur, ce cristal, il est magnifique. Hein, mais seulement, l'amour de Dieu n'arrive pas que de l'extérieur, il arrive aussi de l'intérieur. Donc, c'est un ravissement. Voilà, c'est la beauté de ce que Dieu a façonné. Et puis, ensuite, elle va parler du péché. Et quand elle parle du péché, elle dit, ben c'est comme si ce château de cristal qui est éclatant, étincelant, qui est d'une beauté, enfin, qui attire nos regards, c'est comme si on le prenait et on le trempait dans la boue, ou alors dans du goudron. Alors le soleil de Dieu, je trouve, enfin moi ça m'a beaucoup parlé, le soleil de Dieu, il peut continuer à briller. Et le soleil, Dieu c'est ça, Dieu est amour et il ne changera jamais. Donc le soleil continue à briller. Mais il ne se passe plus rien du tout. Si votre château de cristal a été trempé dans du goudron ou dans de la boue, eh ben, il peut y avoir du soleil de l'extérieur et du soleil de l'intérieur, on ne voit plus rien. Alors les gens disent, mais moi je ne vois pas Dieu. Mais évidemment on ne voit pas Dieu. Et pourquoi on ne peut pas le voir? Eh ben, parce qu'on a tellement besoin d'être... on a tellement besoin d'être lavé, oui, peut-être ça, hein. Lavé, restauré, et à ce moment-là, on voit Dieu, hein, parce que Dieu, il continue à se manifester, mais du coup, on peut pas le voir parce que il y a toute cette boue qui empêche, et c'est ça, la réconciliation, c'est ça, sacrement de réconciliation après sacrement de réconciliation, on est comme lavé, restauré. Et Thérèse d'Avila dit, eh ben la porte d'entrée, c'est la prière, hein, c'est l'oraison, hein, mais quand on rentre, je trouve ça magnifique, quand on rentre dans ce château qui nous conduit, hein, ce château qui nous conduit jusqu'à cette demeure où Dieu habite, hein, et c'est là en nous, hein, c'est là en nous, cette demeure de Dieu. Eh bien, on y rentre avec avec les vipères, avec les scorpions, avec tout ce qui nous colle à la peau, avec tout notre péché. Et puis au fur et à mesure, eh bien, on laisse Dieu faire ce travail. Et c'est toute une vie, hein, c'est toute une vie. Voilà. Le péché d'Adam. Alors, le péché d'Adam, ça y est. Thérèse d'Avila, ça y est, hein, je vous en ai parlé. Alors, maintenant, j'arrive à Caïn. Alors, donc, le péché est entré, et puis voilà, il va se propager. Hein, voilà, il y a eu une brèche, et ben c'est entré, et puis maintenant, ça y est. Hein. Alors, les enfants d'Adam et d'Ève, donc Caïn et Abel, ils vont en faire les frais. Hein. Voilà, les voilà tous les deux qui apportent leur offrande à Dieu, et Dieu agrée l'offrande d'Abel. Mais bien sûr, Caïn est absolument jaloux, et ça, il ne le supporte pas. Et alors, ce que je trouve beau, alors, il a un visage abattu et triste. Et quelquefois, vous savez, hein, le péché nous rend tristes et abattus. Moi, il m'est arrivé de ne plus avoir la joie et de me dire, voilà, maintenant je vais au sacrement de réconciliation. Je vous assure, ça marche. Je vous assure, ça marche. Bon, voilà. Il est triste, il est abattu. Et ce que je trouve merveilleux dans ce texte, c'est Dieu qui lui dit, alors pourquoi est-ce que tu es irrité et pourquoi est-ce que ton visage est abattu? C'est Dieu lui dit, hein. Donc quelque part, il essaye de lui tendre la main. C'est vraiment beau. Alors si tu es bien disposé, tu relèveras la tête, hein. Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché, il est tapis à ta porte. Enfin, voilà, le péché n'est-il pas à ta porte une bête tapie qui te convoite? Le péché, il est là, il te titille, hein. Est-ce que tu pourras le dominer? Et tu as la... En fait, pour moi, ça veut dire tu as la capacité, tu as la liberté, tu as été créé libre et tu peux encore choisir. Tu peux encore choisir de dire, ben non, je ne vais pas me laisser avoir. Mais Caïn, il n'écoute pas. Il n'a pas du tout envie de Dieu. Il n'a pas du tout envie des commandements de Dieu. Voilà. Hein. Il emmène son frère au champ. Il le tue. Hein. Et alors Dieu, rebelote, Dieu va venir. Alors où il est ton frère? Qu'est-ce que... Hein. Ah ben il dit, ben moi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est pas à moi de le garder. Et puis Dieu dit, ben tu vois, le sang de ton frère crie vers moi. Hein. Maintenant, eh ben sois chassé du sol fertile. Hein, parce que ce sol, il a ouvert la bouche pour recevoir le sang, hein, de ton frère, quoi. Et puis ça vient de ta main. Alors si tu cultives le sol, il te donnera plus de produits. Voilà, là, ça va résister. Hein. La nature, elle va résister. Hein. Alors Caïn, il va dire, ben ma peine est trop lourde à porter. Vois, ben maintenant, n'importe qui pourra me tuer. Je suis comme un errant. Et Dieu, c'est beau, Dieu va mettre une protection sur Caïn. Pourtant, il est criminel. Mais Dieu va mettre une protection. Hein. Mais alors, le texte, vous reprenez la Bible, ils sont très profonds, ces textes. Ils disent des choses très profondes. Le texte va dire, Caïn se retira de la présence de Dieu. Je dis, pourquoi il se retire? Pourquoi il se retire de la présence de Dieu? Ben voilà, je tourne le dos à l'église, je veux pas, j'en fais à ma tête, ben là on est dans le péché, quoi. Enfin, on est dans la rupture avec Dieu, voilà. Alors, une précision, pour moi ça me paraît important. Dieu a horreur du péché. Il est trois fois saint. Il a horreur du péché, mais il est toute miséricorde par rapport aux pécheurs. Alors ça, pour moi, c'est très important. On pourrait, je vous ai pris Caïn et Abel, hein, on pourrait prendre Joseph, hein, qui a été vendu par ses frères, etc. Bon, je ne m'arrête pas. Maintenant, je voudrais prendre le roi David. David, c'est un jeune homme que Dieu a choisi pour remplacer Saül. Saül, c'est un roi qui vient de désobéir, voilà, qui a désobéi. Et donc, le prophète Samuel est chargé d'aller chercher, c'est Dieu qui l'envoie, pour donner l'onction à un nouveau roi. Donc, le prophète arrive, il voit les fils de Jessé, puis il voit le premier. Vous pouvez lire ça dans le livre de Samuel, hein, deuxième livre de Samuel, voilà, au chapitre, je crois que c'est 11-12. Alors, le prophète, un peu avant, parce que ce dont je vais parler de David, c'est 11-12, mais un petit peu avant, vous avez cette histoire-là. Alors, le prophète arrive, et puis... il voit le frère aîné, hein, et il se dit, ben c'est certainement lui, hein, certainement lui, parce qu'il a une belle apparence, voilà. Et Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Ah, pourtant, il avait l'air fort, il avait tout à fait le profil d'être roi. Et Dieu va dire, ben, les hommes, ils regardent l'apparence, mais Dieu regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Hein, Dieu regarde le cœur. Les sept fils de Jessé vont passer. Et c'en est aucun. Chaque fois, Dieu dit, ben non, c'est pas celui-là. Chaque fois, le prophète se dit, ben c'est celui-là. Ben non, c'est pas celui-là. Puis finalement, ben, ils sont passés. Et le prophète dit, mais t'as pas un autre fils? Eh si, il y en a un. C'est le plus jeune. Il est au troupeau. Il est en train de garder le troupeau. Et donc, c'est lui qui... c'est lui qu'on va aller chercher, et dès que Samuel le voit, Dieu lui dit, c'est lui, donne-lui l'onction. Et donc, ils vont lui donner l'onction. Donc, David reçoit l'onction alors que Saül est encore roi. Hein. Voilà. Il y a des choses que vous connaissez dans cette histoire de David. Vous connaissez l'histoire avec Goliath. hein, cet homme fort qui vient menacer les troupes du Dieu d'Israël. Hein. Et alors David, il se dit, mais attends, il faut pas se laisser faire, c'est pas possible, hein, faut faire quelque chose. Et personne, tout le monde a peur en voyant ce grand homme, cet homme fort, géant, enfin qui est là et qui a défié l'armée d'Israël. Et David se propose d'aller à la rencontre. Puis on lui dit, mais attends, t'as pas ce qu'il faut, faudrait mettre une armure. Et David, non, c'est pas possible. C'est très marrant quand vous lisez ça, hein, parce qu'on lui met une armure, il peut pas bouger avec son armure, il peut pas bouger. Mais David, lui, non, il va enlever son armure et il va aller contre ce géant avec la puissance de Dieu. Et il va le dire d'ailleurs, hein, moi je viens contre toi avec le Dieu fort, le Dieu saint d'Israël. Et en passant, il a ramassé quelques cailloux, ben il envoie avec sa fronde, il envoie un caillou, et puis voilà, c'est terminé, le combat est terminé, les ennemis s'enfuient, enfin voilà. Alors toutes les femmes, elles se mettent à chanter, parce que David a remporté la victoire, quoi. Et ça plaît pas du tout au roi, donc le roi va le poursuivre. Donc voilà, David, c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui aime Dieu. Vous savez qu'on dit que les psaumes ont été écrits par David, hein, il y a beaucoup de louanges qui viennent de David. Et puis, comme le roi le poursuit, eh bien David, il est menacé de mort, hein, parce que si les gardes du roi arrivent à le cerner, ben ça y est, c'en est fini de sa vie. Et alors il s'enfuit. Et à deux reprises au moins, il se trouve dans une grotte au moment où le roi arrive pour faire ses besoins, quoi. Et David est au fond de la grotte et les gens qui sont autour de lui disent, mais alors vas-y, c'est le moment, tue-le, maintenant tue-le, il est là sous tes, il y a personne qui peut rien faire, hein. Et David a le cœur qui se met à battre, il coupe simplement un pan du manteau et le cœur se met à battre parce qu'il a coupé le pan du manteau. Et il dit, mais jamais je ne toucherai à la vie de celui qui a été oint par Dieu. Vous voyez ce respect de Dieu, ce respect de David par rapport à la vie, hein, de l'homme, hein, à la vie de cet homme que Dieu a choisi. Et je trouve ça très beau, hein, je trouve ça vraiment très beau. Et je vous dis ça parce que après, vous allez voir, il va y avoir une chute de David et il va toucher à la vie, hein. Mais là, vraiment, il y a ce respect de David. Petite chose encore par rapport à David. Alors David, comment je veux dire, quand il va au combat, donc le roi va mourir et donc c'est lui qui va prendre la place, il va unir, hein, les tribus, etc. Et on voit à un moment donné David qui dit à Dieu, mais est-ce que je dois attaquer l'ennemi? Et Dieu lui dit, oui, vas-y, attaque, je te donne la victoire. Vous voyez un peu, c'est la prière, ça, c'est le lien entre David et puis Dieu. Et puis une autre fois, il lui dit, mais est-ce que je dois attaquer? Et Dieu lui dit, mais n'attaque pas de front, fais le tour, contourne-les. Enfin, voilà, c'est pour dire cette familiarité, cette belle intimité qui existe entre David et Dieu. Et David sera d'ailleurs, hein, c'est une figure du Messie, hein, c'est une figure du Messie, hein. J'ai choisi un homme selon mon cœur. David, c'est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Voilà qu'il a passé une grande partie de sa vie à servir Dieu. Et puis, alors, pour dire, on peut très bien être juste et un jour... entrer dans le péché. Il a servi Dieu fidèlement, hein, et voilà que un jour, normalement sa place était à l'armée, hein, c'était lui qui se battait contre l'ennemi, et puis voilà qu'il lâche, hein, un petit peu, il reste au palais et il laisse son armée partir, hein. Jésus nous dit, restez vigilants, hein. Voilà, là, il y a une baisse de vigilance. Le texte, c'est en 2 Samuel chapitre 11, le texte nous dit que David, il se lève le soir de sa couche. Alors, est-ce qu'il serait resté toute la journée au lit? J'en sais rien. En tout cas, baisse de la vigilance. Et bien, c'est dans ces moments-là que le malin, il est malin et puis il vient nous tenter. Alors, il va sur la terrasse et puis cette terrasse du palais qui domine tout Jérusalem. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme qui est en train de prendre son bain. Ça pourrait s'arrêter là. Il est libre, David. Ça pourrait s'arrêter là. Ben, voilà, si tu mets pas une garde à tes yeux et à ta bouche, hein, ben, tu risques, voilà. Et David demande qui c'est. Ah, ben, on lui dit que c'est la femme d'Urias, le Hittite. Donc, c'est quelqu'un qui combat, qui combattait avec David, quoi. C'est un étranger, mais il combat avec David. Et puis, voilà, ça pourrait s'arrêter là encore. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Il va faire venir la femme. C'est le roi David, hein, donc il fait venir la femme. On ne dit rien de la femme. Hein, elle vient. Hein, elle s'appelle Bethsabée. Et puis, ils vont coucher ensemble. Et quelque temps après, eh ben, elle va lui faire dire, ben voilà, je suis enceinte. Voilà. Et là, on va vraiment rentrer dans le péché, mais on va vraiment s'enfoncer dans le péché. Hein, parce que David pourrait dire, ben voilà, tant pis pour mon honneur, voilà, c'est, hein, c'est la femme. Lui, David, il risque rien, il est roi. La femme, elle risque d'être lapidée. Mais là, non, David, au lieu de faire la vérité, au lieu d'essayer de faire la vérité, il se dit, ben tiens, comment est-ce que je peux faire? Comment puis-je faire pour m'en sortir? Ah ben tiens, on va faire revenir Uri, hein, et puis on va masquer, quoi. On va rentrer dans le mensonge, là. Donc, il fait revenir Uri de la guerre, et puis il lui dit, écoute, repose-toi. D'abord, il pose quelques questions, comment ça va là-bas au front, etc. Et puis, il dit, écoute, repose-toi, rentre chez toi. Normalement, ça, les guerriers ne le faisaient pas. Ils rentraient pas chez eux tant qu'ils étaient... tant qu'ils étaient engagés, eh bien, ils rentraient pas chez eux, ils allaient pas avec leur femme, ils allaient pas manger, ils allaient pas boire, parce que faire la fête, quoi, parce que l'armée continuait, et puis il fallait rester quand même vigilant. Donc, le soir, Uri, au lieu de rentrer chez lui, il reste avec les gardes de la ville, quoi. Et puis, alors on vient dire à David, tu vois, il est pas rentré. Zut, donc ça a pas marché. Donc ce jour-là, David lui redit, mais enfin, écoute, t'es à la guerre, mais vas-y. Alors il dit, attends, par le Dieu vivant, mais jamais je ferai ça. Tu te rends compte? L'arche de Dieu, il est sous une tente. En plus de ça, l'armée, elle est là-bas. Hein, mes copains, ils sont en train de combattre. Ah non, ça jamais je ferai ça. David l'invite le soir. Il l'invite le soir pour manger. Ils font la fête et David l'enivre en se disant, ben, quand même, une fois qu'il aura bien bu, hein, peut-être qu'il va rentrer. Pas du tout. Uri ne change pas. Le soir, il est ivre, bien sûr, mais il reste avec les gardes. Et David comprend que de toute façon, là, il n'y a rien à faire. Donc, David va écrire. Voyez comment le péché, il va grandir, là. Hein. On va rentrer de plus en plus dans... David va écrire une lettre en disant, bah écoute, quand il y aura une sortie de l'armée, eh ben mettez Uri au plus fort, hein, là où justement il y a des risques, hein, comme ça il sera peut-être touché. Et cette lettre, David la ferme et il la fait porter par Uri. Donc c'est Uri porte, lui c'est l'innocent, quoi. Il porte son arrêt de mort. Donc il va porter, bien sûr, cette lettre. Et quand le chef de l'armée a cette lettre, ben bien sûr, le jour où il y a une sortie de l'armée, et puis bien sûr ça va arriver, et ça arrive, Uri est aux premières lignes, il est tué, ben voilà, ça y est, ben l'histoire est réglée. Et David, c'est terminé. Hein, ça s'arrête là. Pour David, ça s'arrête là. Après tout, David n'a pas tué. Hein, c'est pas lui, il n'a pas tué. Mais c'est là que Dieu va intervenir. C'est Dieu va intervenir. Il va envoyer le prophète Nathan. Parce que... des fois, on n'est pas conscient. Des fois, on est aveugle. Des fois, nous ne savons même pas que nous sommes dans le péché. Et là, heureusement qu'il y a le prophète. Alors moi, je dirais, quels sont les prophètes aujourd'hui? Ben, c'est nos prêtres qui nous parlent qui nous font des homélies. C'est tout ce qu'on peut lire. C'est les discours du pape. C'est les commandements. C'est tout ça. C'est des choses qui nous préviennent. C'est notre conscience. Enfin, voilà. Et donc. Le prophète Nathan va raconter une histoire. Il est très fin parce qu'il est face au roi. Hein. Donc, j'ai envie de dire, à la limite, David pourrait très bien décider de le supprimer. Mais le prophète Nathan prend David en lui racontant une histoire où c'est la justice qui est en cause. Hein. Et David, c'est un homme qui a toujours été juste. Alors, il dit, tu vois, il y a quelqu'un, un pauvre, il a une brebis. Et puis, un riche, il a tout un troupeau de brebis. Enfin, il a tout ce qu'il faut. Mais voilà qu'il y a des invités qui arrivent chez le riche et le riche fait tuer la brebis du pauvre. Et David, il se met en colère. Il dit, ah ben, par le Dieu vivant, je le jure, cet homme, il mérite la mort. Et le prophète lui dit, eh ben, cet homme, c'est toi. Ah. Et là, c'est remarquable. C'est remarquable parce que David ne se justifie pas. J'ai péché contre toi, mon Dieu. J'ai péché contre toi, mon Dieu. J'ai péché contre Dieu. Hein? C'est là il y a toute la grandeur de David, hein, qui s'humilie et qui avoue et qui va nous laisser un psaume absolument formidable. C'est le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande tendresse, efface mon péché, lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Hein, voilà. Je regarde s'il me reste un petit peu de temps. Oui, ouais, encore un petit peu. Bien sûr, l'enfant de cette union va mourir. Hein. Et David, alors j'ai pas terminé là. Le prophète lui dit, Dieu pardonne ta faute. Dieu pardonne. Et David, tout de suite, le croit. Voilà. Dieu pardonne, il a pardonné. Nous, quelquefois, on nous pardonne, mais alors, on est des années après encore, des fois, on ressasse. Hein, voilà, mais Dieu, c'est nous qui ressassons. Mais Dieu, si le prêtre t'a dit « je te pardonne », c'est terminé. Comme disait quelqu'un, il a pris nos péchés, il les a jetés à la mer, et il a mis une pancarte « pêche interdite ». C'est terminé, il les jette au fond de la mer, on ne se souvient plus. Voilà. Dieu ne se souvient plus. Et ce qui est beau, c'est que tu peux recommencer, tu peux repartir. Tu peux repartir et tu as une nouvelle chance. Ça, c'est, là, on touche un petit peu la miséricorde. Hein. La miséricorde qui va au-delà de la justice. Alors, ce premier enfant va mourir, mais et David va prier en demandant que Dieu peut-être fasse quelque chose, mais l'enfant meurt. Et puis, les textes nous disent, il y a Bethsabée conçoit, enfin, David s'unit à Bethsabée. Alors, bien sûr, une fois qu'elle a pris le deuil, hein, David la fait venir au palais, elle devient son épouse, et ils vont s'unir et ils vont avoir un deuxième enfant. Et là, ce sera Salomon, et Dieu fait dire par le prophète, ça c'est très beau, Dieu fait dire par le prophète que cet enfant, il l'aime. Hein, et il le fait savoir. Et dans la Bible, vous avez Yedidia. On l'appellera Salomon, quoi. Mais il y a ce nom de Yedidia, ce qui veut dire aimé de Dieu. Et dans ce mot aimé de Dieu, il y a l'assurance du pardon de Dieu. Hein. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que c'est par Salomon, hein, que toute la généalogie, hein, hein, qui va aller jusqu'à Jésus, hein, va passer par Bethsabée. Et par Salomon. Ça, c'est un Dieu qui rentre dans notre humanité pécheresse pour la restaurer. C'est vraiment magnifique. Voilà. Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne toujours. Alors maintenant, j'ai parlé de miséricorde et de justice, simplement. Si vous prenez en Matthieu au chapitre 20, nous avons l'histoire de ce maître de la vigne, hein, qui embauche à toute heure, hein, des ouvriers et qui donne au dernier autant qu'au premier. C'est un scandale. Enfin, il y a une injustice quelque part. Il y a une injustice, hein, parce qu'on se dit, ben, alors si on avait donné en proportion du travail, eh bien, on serait dans l'ordre de la justice. Hein, on serait dans l'ordre de la justice. Mais là, le dernier a reçu autant que le premier, et ça, là, on est dans la miséricorde. Mais vous comprenez quelque chose de scandaleux là. Il y a du scandale. Ça nous heurte quelquefois. Hein. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui se penche alors sur notre misère. Miséricorde, vous avez misère, et puis cordes, un cœur. Hein. Le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Voilà, c'est ça la miséricorde. Je voudrais vous dire aussi que la première parole que Jésus adresse au paralytique, qui est portée par quatre hommes, hein, qui l'ont descendu par le toit, hein. Moi j'ai imaginé, hein, je ne sais pas si vous imaginez, mais je me dis, moi j'aurais été sur le brancard, je crois que j'aurais dit, attention, ne me laissez pas tomber, ça devait être quelque chose là, hein, de descendre le paralytique devant Jésus. La première parole que Jésus dit, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». Alors attendez, vous vous rendez compte, les quatre hommes, ils ont pas, je ne sais pas s'ils ont ramené cet homme pour que ses péchés soient pardonnés, mais Dieu voit que le mal le plus grand, ce n'est pas la paralysie physique. Même si nous, extérieurement, nous, quelquefois nous disons c'est ça, mais la paralysie intérieure, elle est bien pire, Et c'est pour ça que Jésus dit, eh ben, tes péchés te sont pardonnés. Le sacrement de réconciliation fait partie des sacrements de guérison, hein, au même titre que l'onction des malades. Ça, vous trouvez dans le catéchisme aussi. Voilà. Le péché, moi, je le compare à un cancer. C'est un cancer qui ronge notre cœur, hein, qui nous ronge de l'intérieur. Hein. Mais Jésus vient nous en libérer. Hein. Et on a cette image du bon berger qui va à la recherche de la brebis perdue. Mais cette brebis perdue, c'est moi. Hein, cette brebis perdue qui a sa place sur les épaules de Jésus, c'est moi. Maintenant, si je me considère, il y a eu un moment dans ma vie, il y a eu un moment dans ma vie où je me disais, ben moi, je commets pas de péché, quoi. Je vais à l'église, je vais à la messe, je vole pas, je tue pas, comme disaient certains. Voilà. Ben heureusement, hein, heureusement, parce que si on est si on était tous à voler et à tuer, ça serait dramatique, quoi. Mais je me considérais un peu comme juste entre guillemets bonne pharisienne, voilà, bonne pharisienne. Et j'étais scandalisée de ce que Jésus aille chercher la brebis égarée. Je me disais non, attends, c'est pas juste. Alors moi, hein, moi là-dedans, hein, eh ben, c'est parce que j'étais mal placée. Je suis pas la juste, je suis la pécheresse. Alors là, c'est merveilleux parce que ma place, elle est sur le cœur de Jésus, elle est sur les épaules de Jésus, et il vient me chercher. Mais tant que je suis juste, eh ben, j'ai envie de dire, mais si je me considère comme pécheur, alors oui, Jésus vient à ma rencontre. Tout à l'heure, dans le petit montage, on avait l'histoire de l'enfant prodigue. Vous avez vu combien c'est le père qui court. Hein, c'est, je ne sais pas si le fils qui revient, il court. Hein, peut-être c'est quand même humiliant de revenir. Hein, mais c'est le père qui court. Il y a une autre histoire. Alors, c'est pas biblique, mais je trouve ça très beau entre un père et un fils. Donc, c'était, ça y est, il s'était dit, on se reparlera plus jamais. Le fils était mis dehors et voilà. Et puis, le fils, tout d'un coup, se dit, oh, je retournerai bien voir mon père, mais comment je peux faire? Alors, il écrit une lettre à son père en disant, père, j'aimerais bien revenir, mais je ne sais pas si tu accepteras que je rentre dans la maison, parce que tu m'as dit que jamais plus je ne devais revenir. Mais si tu acceptes, mets un bandeau blanc, hein, sur l'arbre, voilà, et je saurai, je comprendrai. Et cet homme a demandé à quelqu'un, un ami, il dit, écoute, tu vas me ramener, je vais fermer les yeux, parce qu'il avait tellement peur, il fermait les yeux, je regarde pas, quand on sera arrivé devant, dans cette allée où il y a cet arbre, tu me diras et je regarderai. Et donc, quand ils sont arrivés, cet homme s'est arrêté, a dit, ben voilà, ça y est, on y est. L'homme a dit, avant d'ouvrir les yeux, dis-moi, est-ce qu'il y a un bandeau blanc? Et cet homme lui a dit, mais écoute, toute l'allée est couverte de bandeaux blancs. Hein. C'est la joie du Père. Et ben, c'est à chaque sacrement de réconciliation, c'est ça. C'est la joie du Père qui s'élance, qui vient. Et c'est le Père qui embrasse, c'est le Père qui étreint, c'est le Père qui prend. Et ça, j'ai envie de dire, des fois, même si on ne sait pas quoi dire, mais allez voir un prêtre et dites-lui, hein, voilà, ça fait tellement longtemps, je ne sais plus comment faire, mais je viens puiser à cet amour parce que je crois que j'ai besoin de cet amour. Voilà. Le Saint Curé d'Ars nous dit « Dieu a plus vite fait de pardonner qu'une mère de retirer son enfant qui tombe dans les flammes. » Je ne sais pas si vous imaginez. Dieu a plus vite fait, hein, de pardonner qu'une mère, hein, qui va retirer. Si une mère voit son enfant tomber dans les flammes, elle se précipite. Hein, voilà. Mais Dieu a plus vite fait qu'une mère. Hein. Encore faut-il y aller. Encore faut-il aller à Jésus. Regardez le bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a suffi d'une parole. Hein, il a suffi d'une parole. Je pense à Pranzini, hein, la petite Thérèse qui priait pour cet assassin, hein, et qui, au dernier moment, est venue embrasser la croix. Et pour Thérèse, c'était ça y est. Il y a eu ce retour. Et Dieu voit le cœur. Hein, Dieu voit le cœur. Je vous lis une phrase je vous lis plusieurs phrases là maintenant de Sœur Faustine. Hein. Parle de ma miséricorde, dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de ma miséricorde. Et elle dira dans une note, eh ben, en fait, c'est le sacrement de réconciliation. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles, qui se renouvellent sans cesse. Point n'est besoin, pour obtenir ce miracle, de faire de lointains pèlerinages. Mais il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient la qui tient à ma place, de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Mais si, même si cette âme est en décomposition, comme un cadavre, et même si humainement parlant, il n'y a plus aucun espoir de retour à la vie, que tout semble perdu, il n'en est pas ainsi pour Dieu. Le miracle de la miséricorde redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine, en vain vous appellerez et il sera trop tard. Vous trouvez ça dans le petit journal au numéro 1448. Au numéro 1602, Jésus dit à sœur Faustine, « Quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont jaillis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. » C'est vrai qu'on ne le voit pas. Hein, on le voit pas. Mais avec la foi, on croit. Hein, on croit vraiment que cette beauté de la robe du baptême nous est redonnée. Hein. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec une grande confiance. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux seront toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Non pas pour juger, Jésus ne vient pas nous juger. S'il nous montre quelque chose dans notre vie qui ne va pas, ce n'est pas pour nous écraser, c'est toujours pour nous relever. C'est toujours pour que nous allions vers une plus grande liberté, vers plus de vie, vers plus de bonheur. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous veut plein de vie et plein de bonheur. La miséricorde, c'est cette puissance particulière de l'amour qui est plus fort que le péché et l'infidélité. Voilà. Peut-être je pourrais dire aussi que la petite Thérèse disait « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance parce que je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau par rapport au brasier ardent du cœur de Dieu. » Et puis elle disait « Mais mon Dieu, punis-moi par un baiser. » Là, on voit toute la confiance, tout cet esprit d'enfance de la petite Thérèse. Hein. Tout ça se passe par la croix. J'ai pas beaucoup parlé de la croix, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de comprendre la croix. Moi, je vais vous dire pour moi ce qui m'a aidée. Un jour, j'avais lu le journal, et c'était donc dans la région. Il y avait eu une maison qui avait pris feu. Le couple était sorti, les trois enfants, le mari, la femme. Et quand ils étaient tous dehors face à cette maison en flammes, tout d'un coup, oh, le bébé. Ah, alors le papa s'est jeté pour aller chercher. Et l'article du journal racontait qu'on avait retrouvé le bébé dans les bras de son papa. Bon, ils étaient morts tous les deux. Et moi, je sais qu'après ça, j'ai repassé. Puis ça me trottait dans la tête. Je me disais, mais il est fou ce père, il est fou. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il y a sa femme, ses trois enfants qui sont là. Mais qu'est-ce qui lui a pris de se lancer? Et tout d'un coup, ça m'a traversé. Oh, comme il devait aimer cet enfant. Comme il devait aimer cet enfant pour aller le chercher. Et je me dis, ça, c'est ça Jésus, c'est ça la croix. La croix, c'est ça. C'est cet amour de Dieu qui supporte pas de nous voir dans nos blessures, dans nos misères, dans nos guerres, dans nos divisions. Dieu ne supporte pas. Et Jésus, c'est vrai, c'est le bon pasteur qui vient nous rechercher, qui vient nous ressortir, qui vient nous tendre la main. Marie dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Jamais cette miséricorde ne s'arrêtera. Elle est pour nous. D'âge en âge, la miséricorde de Dieu est déversée sur le monde. Et saint Paul nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous fait revivre par le Christ. Voilà, je termine là-dessus en vous disant simplement, osons nous jeter dans les bras de ce Père qui nous aime à en mourir. Hein, voilà, dont l'amour n'a... si notre misère est un abîme, l'abîme du cœur de Dieu, l'abîme de l'amour du cœur de Dieu est tellement plus grand. Hein, l'abîme de sa miséricorde est là pour remplir l'abîme de notre misère, pour venir nous guérir, pour venir nous restaurer, pour venir nous donner cette beauté dans laquelle Dieu nous veut. Et on a certainement besoin de toute notre vie. Hein. La guérison totale, ce sera au ciel quand on verra Dieu. Mais sacrement de réconciliation, après sacrement de réconciliation, nous nous rapprochons de ce moment où nous verrons Dieu. Et il y a aussi cette image de chaque fois qu'il y a un sacrement de réconciliation, on est relié à Dieu par un fil, mettons. Et chaque fois, il y a comme un nœud. Et nœud après nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Alors, osons nous jeter dans les bras de cette miséricorde. Faisons l'expérience de cette miséricorde. Prions pour nos prêtres. Prions, demandons à l'Esprit Saint de les éclairer, de leur donner la parole dont nous avons besoin. Je vous assure, je peux témoigner, hein, parce que les sacrements de réconciliation, j'en ai eu beaucoup, hein, mais je peux vous témoigner de comment Dieu m'a rejoint. Je me souviens d'une fois, on avait eu en communauté, il y avait eu un problème, quoi. Et puis le prêtre, après, quand je suis allée me confesser, il m'a dit quelque chose. Je me suis dit, bon, ça c'est mon responsable. C'est sûr, il a dû lui dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé, donc ça c'est mon responsable. Donc voilà. Ben voilà. Donc j'ai entendu, mais sans plus, quoi. Et puis je suis allée à Paris, à la rue du Bac, et quand je passe à Paris, à la rue du Bac, quand j'ai pas été confessée, j'y vais. Savez-vous que le prêtre m'a dit au mot près, vous avez les bras qui vous en tombent, au mot près, la même chose. Et je me suis dit, ah ben ça, c'est, le bon Dieu voulait te dire ça. Ça, c'est vraiment une parole pour toi, et Dieu vient te parler. Tu n'as pas écouté, la première fois, mais combien de fois, c'est des choses comme ça, c'est incroyable. Hein, vous arrivez, vous êtes, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Et comment ce sacrement vous redonne la force, la grâce de repartir? Vous pouvez en abuser. Les piles, ça suce quand on s'en sert. Nos prêtres, ils sucent quand on s'en sert pas. Donc, abusez-en. À consommer sans modération. Voilà. Voilà.
Ben, merci beaucoup. Voilà.
Ben, grand grâce au Seigneur. Merci, Seigneur.